le magazine des Nations Unies.
La MONUSCO n'a pas mandat de protection physique des personnalités ou des candidats à la présidentielle. La porte-parole l'a souligné mercredi dernier au cours de la conférence des Nations Unies à Kinshasa. Pas de lien entre l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement dans la région de Béni et celle de l'Équateur d'il y a quelques semaines. Le représentant de l'OMS en RDC est catégorique. L'écosystème du pays favorise la maladie qui peut surgir de tous côtés, a déclaré le docteur Alarangar Yakouide. Vous le suivrez dans ce magazine. Une page noire, décédé le 31 juillet dernier. Brigitte Mopané, ancienne chargée de communication à l'ONU CIDA RDC, a été inhumée à Kinshasa le lundi 6 août 2018.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et bienvenue au magazine des Nations Unies. Pourquoi la MONUSCO n'a pas pris des dispositions pour assurer la protection de Moïse Katumbi lors de sa tentative de regagner le pays la semaine dernière du côté de Kasumbalesa? Et pourquoi la force de la MONUSCO n'a pas non plus été déployée à l'aéroport international d'Ndjili pour protéger Jean-Pierre Bemba? Au cours de la conférence des Nations Unies de mercredi dernier à Kinshasa, Florence Marchal a donné des explications. Le Conseil de sécurité n'a pas donné mandat à la MONUSCO d'assurer la protection physique des personnalités ou des candidats. Suivez les propos de la porte-parole de la MONUSCO, recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Je voudrais ici préciser que tout ce que nous faisons est décrit dans la résolution 2409 que nous a donné le Conseil de sécurité. Et donc toutes nos actions trouvent une justification dans ce mandat. Et dans ce mandat, il n'est nulle part inscrit que la MONUSCO peut ou doit fournir une protection physique à des personnalités ou à des candidats. La sécurité des personnes et des biens, y compris lorsque ces personnes exercent leur liberté fondamentale ou leurs droits politiques, ainsi que la responsabilité du maintien de l'ordre public, sont des missions régaliennes de l'État congolais. La représentante spéciale du secrétaire général a rencontré la semaine dernière, comme elle le fait au quotidien, les représentants des partis politiques, y compris de la formation de M. Katumbi, et elle avait transmis ce message. Elle rencontre aussi les représentants du gouvernement, elle a rencontré la semaine dernière le ministre des Affaires étrangères, et tout le monde est d'accord sur cette interprétation du mandat de la MONUSCO. Bien sûr, nous avons d'autres outils qui sont également décrits dans la résolution pour mettre en œuvre notre mandat, dont la protection des civils. On va parler des bons offices, on va parler du monitoring, de l'observation et des rapports que nous faisons lorsque nous constatons des violations des droits de l'homme, de l'appui au système de justice pour lutter contre l'impunité, qui sont également des outils pour la protection des civils dans le cadre de l'exercice des droits civils et politiques.
Volet santé avec l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui frappe actuellement la région de Béni au Nord Kivu. Ne vous y trompez pas, cette épidémie n'a aucun lien avec celle qui s'était déclarée il y a quelques semaines dans la province de l'Équateur. Le docteur Alarangar Yakouide a fait une mise au point sur ce dossier mercredi dernier. Les propos du représentant de l'OMS en RDC, recueillis encore une fois par Honoré Missenga Kalala.
Ce qu'il faut savoir, c'est que la République démocratique du Congo a un écosystème favorable à la circulation du virus d'Ebola. Si vous faites le point des épidémies qu'il y a eu dans ce pays, il y en a eu au centre, il y en a eu au nord, il y en a eu à l'est, il y en a eu à l'ouest. Ça veut dire que le virus circule. Ce que l'épidémie actuelle qui se passe au nord Kivu n'a rien à voir avec l'épidémie qui a eu lieu dans l'Équateur il y a quelques mois. Il n'y a pas de lien. Les analyses ont permis de savoir que le génotype qui sévit actuellement n'est pas le même génotype qui s'est passé dans l'Équateur. Donc, je pense que c'est l'écosystème qui favorise quand les conditions sont réunies. Eh bien, la maladie peut surgir de tous les côtés. Mais je peux vous rassurer, les autorités sanitaires congolaises avec leurs partenaires font vraiment tout pour contenir l'épidémie là où elle se déclenche.
Enfin, cette nouvelle triste, hein, Brigitte Mopané, femme des médias et chargée de communication à l'ONU SIDA RDC, a tiré sa révérence le 31 juillet dernier. Une mort brusque et le lundi 6 août, le jour de son inhumation au cimetière, un nécropole entre ciel et terre, des grandioses hommages d'adieu lui ont été rendus ainsi que plusieurs témoignages sur les nombreuses qualités de la défunte. Un extrait des hommages de la direction de l'ONU SIDA RDC, recueilli par Honoré Missenga Kalala.
Au nom de M. Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU SIDA, de M. Marc Saba, directeur pays de l'ONU SIDA, qui est absent du pays pour des raisons familiales, et aussi au nom de l'ensemble du personnel de l'ONU SIDA à travers le monde et de l'ensemble du système des Nations Unies en RDC. L'Égypte a été notre collègue. Elle a été en charge de la communication. Brigitte était très dévouée pour son travail. Elle savait partager sa joie et sa gaieté à tous. Quand Brigitte était au bureau et qu'elle riait, on se rendait bien compte qu'elle était là. Elle savait mettre tout le monde à l'aise. Nous ne serons pas longs parce que l'émotion nous dépasse. Les mots nous manquent, Brigitte, pour peindre ou pour reproduire ce que tu as été pour nous. Simplement, la famille de la lutte contre le VIH-Sida en RDC, l'ensemble du système des Nations Unies en RDC, l'ensemble du personnel des Nations Unies, tous nous te disons merci Brigitte. Merci Brigitte pour tout. Repose en paix, car tu as combattu les bons combats. Merci Brigitte.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Une quarantaine de journalistes venus des divers médias, membres de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC, ont pris part du 7 au 9 août 2018 à Kinshasa à une session de formation sur les libertés publiques en période électorale. Omar Samake, du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCUNDH, organisateur de cette formation, circonscrit le cadre de cette initiative dans cet entretien avec Honoré Missenga Kalala.
Omar Samake, bonjour. Bonjour. Une formation sur les libertés publiques en période électorale avec une quarantaine de journalistes. Quelle en est la motivation?
Alors, cette formation s'inscrit dans le cadre de nos activités traditionnelles au niveau du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Nous avons senti le désir, le besoin de renforcement des capacités parce que nous sommes dans une période cruciale. Il y a un certain nombre de choses que nous avons souhaité partager avec les journalistes, notamment les droits fondamentaux des droits de l'homme. Parce que quand on parle des droits de l'homme, aucun citoyen n'échappe. Soit parce qu'on a acheté du pain, soit parce qu'on est parti au marché, soit parce qu'on a voulu réclamer nos propres droits. Raison pour laquelle nous avons dit, attention, nous sommes dans une période cruciale, il faut les aider à voir dans quelle mesure ils peuvent traiter, mieux traiter l'information qui leur sont tous les jours donnée. Et à côté de cela, nous avons dit, ce n'est pas tout, il faut amener les pères à comprendre. Il faut amener les autres à comprendre un tout petit peu qu'est-ce qui se cache derrière chaque thématique. Chaque thématique, en ce sens que, quand nous prenons par exemple la corporation des journalistes, il y a un certain nombre de normes éthiques et déontologiques qui gouvernent la matière. Donc nous avons souhaité rappeler ces notions-là et inciter les journalistes à faire leur mieux pour qu'ils puissent s'y rapprocher de ces normes éthiques et déontologiques qui gouvernent la matière. Et ce n'est pas tout. Nous avons aussi parlé des questions de protection. Les questions de protection qui est une question quasiment transversale et générale qui concerne tout le monde maintenant. Et nous avons partagé quelques notions de protection qui peuvent, si elles sont bien usitées, peuvent aider demain à protéger plus d'eux.
Alors quel est l'objectif ultime poursuivi par le bureau conjoint en organisant cette formation?
L'objectif ultime, c'est de participer à ce qu'on peut appeler la démocratisation des droits de l'homme. Qu'on soit journaliste, juriste, non-journaliste, non-juriste, amener tout le monde à avoir un minimum de compréhension sur un certain nombre de sujets qui nous préoccupent. Donc le but ultime recherché in fine, c'est d'outiller un tout petit, les amener à comprendre les notions basiques pour les permettre d'exercer au mieux leur profession demain dans tous les jours d'ailleurs.
Alors, les libertés publiques, c'est un domaine très vaste. Comment pouvez-vous le mettre en parallèle avec la période électorale?
Non, oui, les libertés publiques, j'avais dit, même pendant les communications, que l'homme a besoin de pain, l'homme a aussi besoin de liberté publique. La période électorale est une période où les citoyens expriment leurs opinions, lesquelles opinions sont parfois contradictoires, sont parfois contraires. Donc, il s'agit pour nous d'amener ceux qui sont les porteurs de voix, les journalistes, à comprendre qu'est-ce que ça veut dire les libertés publiques et dans quelle mesure on peut les réclamer, dans quelle mesure on peut les jouir. Donc il s'agissait véritablement pour nous vraiment de démocratiser les droits de l'homme, de démocratiser les libertés publiques pour une meilleure compréhension de la thématique. Et après le reste sera le suivi sur le terrain.
Oui, vous avez parlé également des mécanismes de protection. Quels sont ces mécanismes concernant les journalistes précisément?
Alors, dans les mécanismes, il y a beaucoup de mécanismes qui ont été édictés pendant la formation. Vous avez vu, il y a trois intervenants qui ont parlé des mécanismes de protection. Il y a des mécanismes de protection qui sont au niveau international, il y a des mécanismes de protection qui sont au niveau national. Et au niveau international, nous avons parlé un peu des mécanismes conventionnels qui ont été mis en place par les différents traités internationaux ratifiés par les différents pays. comme le pacte international relatif aux droits civils et politiques. On a parlé des mécanismes extra-conventionnels comme les mécanismes qui protègent les défenseurs des droits de l'homme, qui protègent les journalistes, etc., etc. Nous avons aussi parlé des mécanismes. Le bureau conjoint a parlé de ses propres mécanismes en cas de danger qui peut guetter un peu les journalistes tout en donnant quelques mesures préventives pour empêcher que ces menaces arrivent. Il y a d'autres partenaires comme Journalistes en danger, le GED, a parlé de ces mécanismes qui consistent à apporter l'assistance judiciaire chaque fois qu'un journaliste est en danger. Donc, véritablement, c'était un partage d'expérience entre les différents acteurs qui concourent au même objectif, à savoir la protection des défenseurs des droits de l'homme en général et en particulier la protection des journalistes.
Bon, vous formez une quarantaine de journalistes sur des milliers. Est-ce qu'il y aura d'autres formations?
Oui, vous savez qu'on ne peut pas tout faire en même temps. C'est déjà un début et nous allons voir dans la mesure du possible comment nous pouvons aller de l'avant avec d'autres intervenants qui vont profiter à d'autres journalistes qui n'ont pas eu la chance de participer à cette formation.
Est-ce que vous avez quand même un commentaire par rapport à votre partenariat avec l'UNPC?
Un commentaire, c'est des mots de satisfaction parce que mobiliser 40 journalistes pendant 3 jours d'affilée n'est pas chose aisée. Ils ont laissé leur rédaction, donc c'est le lieu pour moi de dire toute notre joie, tout notre encouragement à l'UNPC pour avoir mobilisé cette quarantaine de journalistes à venir participer durant 3 jours. Donc on ne peut que se féliciter de ce partenariat fécond.
Oumar Samake, merci beaucoup.
C'est à moi de vous remercier.
En plus bref, l'Institut Technique Agricole ITA, Moukoya de Tchijiba, en territoire de Miabi au Kassai Oriental, pourvu en matériel d'équipement, bancs, pupitres, en manuels scolaires et meubles pour la direction. Ces matériels ont été remis le 25 juillet dernier aux autorités scolaires de l'Institut. Le projet lui-même fait partie du programme de la MONUSCO, visant à soutenir les efforts de reconstruction des régions affectées par le conflit Kamina-Sapou dans le cadre de son mandat de stabilisation. ITA de Moukoya est une école conventionnée catholique du diocèse de Mbujimayi. Elle a été créée en 1986 et a compté au cours de l'année scolaire 2017-2018 un effectif de 464 élèves, dont 164 filles. Toujours dans la région du Grand Kassai et de Mbujimayi-Kananga, où le bureau conjoint Nations Unies aux droits de l'homme, BCMDH, accentue la sensibilisation aux droits et devoirs des citoyens à l'approche des élections. Le mois dernier, le BCMDH a organisé en effet une série de séances de sensibilisation se rapportant aux droits et devoirs des différents acteurs de la vie nationale de la place. Notamment un atelier avec 34 officiers supérieurs et subalternes des FARDC, dont 3 femmes. Cet atelier a porté sur les droits de l'homme et les violences sexuelles. Enfin, toujours dans le domaine de la formation, cette fois-ci en Ituri, où 334 soldats et policiers congolais ont été formés sur les notions essentielles de la Cour pénale internationale CPI. Cette formation, assurée par l'unité de sensibilisation de la CPI, s'est déroulée la semaine dernière à Mahagi et à Roux, respectivement à 175 et 200 km au nord de Bounia. Nous avons constaté qu'il y avait un déficit d'information dans les chefs des responsables de la police et des FARDC sur la Cour pénale internationale. Alors, il était tout à fait indiqué que l'unité de sensibilisation organise ces sessions de formation pour permettre aux officiers ainsi qu'aux autres soldats et aux hommes des troupes d'améliorer leur niveau de connaissance sur la cour et de comprendre aussi le travail que la CPI est en train de faire dans le cadre de la lutte contre l'impunité. C'est en tout cas ce qu'a expliqué à Radio Capi Nicolas Piakou de l'unité de sensibilisation de la CPI.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Le magazine des Nations Unies revient sur l'entretien qu'a accordé à Radio Capi la représentante régionale du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ACR après sa visite dans le Katanga le week-end dernier. Madame Anne Encontre a notamment évoqué la situation des réfugiés vivant à Lubumbashi qui avait pris d'assaut au mois de juin les locaux du bureau du ACR local. La représentante du ACR a été interrogée par Jean Gandou.
Madame Anne Encontre, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes à Lubumbashi pour mener différentes activités, si nous pouvons les connaître.
Je suis venue pour remercier ici, en Haute-Katanga, le gouverneur d'abord, le ministre de l'Intérieur et les services qu'il couvre, le ANR, le CNR, le DGM et le PNC. Parce que en juin, nos bureaux étaient envahis par plus d'une centaine de réfugiés et nous ne pouvons pas travailler pendant 11 jours. Le personnel était séquestré pour un moment. Ensuite, ils sont restés dans nos locaux et nous ne pouvons pas avoir accès au bureau pour mener nos activités pour les autres réfugiés. Donc, une centaine de réfugiés qui nous ont pris en otage, c'était pas une situation tenable. Les autorités, ils ont mené une action très efficace pour décuper les réfugiés. Maintenant, nous sommes contentes d'avoir accès au bureau et de travailler normalement.
Quelles étaient les principales revendications de ces réfugiés?
Ils ont demandé plus d'assistance. Ils avaient des plaintes pour leur propre sécurité. Quelques-uns voulaient aller ailleurs, dans d'autres pays. Nous, la CIR, en travaillant avec le CNR, le gouvernement, les autres agences et nos partenaires, bien sûr, nous donnons assistance avec nos ressources limitées et ils voudraient un peu plus. Ils réclament réinstallation dans les pays tiers, les États-Unis, le Canada, etc., etc. Et ça dépend de pays pour recevoir ces réfugiés. C'est pas nous, la CIR, qui décide.
Et quelles sont les solutions que vous avez apportées à ces revendications?
Nous avons discuté individuellement avec les familles pour voir dans quelle mesure on peut donner assistance ponctuelle, surtout pour les vulnérables, les VIA, des mamans avec les familles qui sont seules. Et nous continuons à chercher des solutions individuelles pour chaque famille. Donc, ce n'est pas une solution pour tout le monde. Quelques-uns qui voudraient être installés ici, intégrés ici, nous avons donné l'argent pour commencer le petit business, le petit commerce. Ils ont commencé, il y a le réussite, mais il y a quelques-uns qui ne sont pas réussis. Donc, on continue les discussions avec les réfugiés pour trouver quelle solution est le vrai et le plus apte pour chaque famille.
Dans l'entretemps, nous avons appris qu'il y a d'autres réfugiés burundais qui voulaient traverser la frontière congolaise par Kipushi, qui voulaient aller en Zambie.
Apparemment.
Eux aussi, quelle solution vous avez proposée?
On n'avait pas encore discuté avec eux parce que, bien sûr, franchir en frontière sans les autorités, ce n'est pas permis. Le gouvernement a interviewé ces réfugiés, ils ont ramené et nous allons voir dans quelle mesure on peut les aider.
Les revendications deviennent assez nombreuses de la part des réfugiés et vous dites que vous avez des moyens limités.
Toujours.
Mais alors, comment comptez-vous mettre fin à ce genre de choses et pourquoi ne pas les amener dans un camp?
Nous avons un camp qui héberge les Burundais qui s'appelle Lucinda, en Sud-Kivu. Mais il y a trop de monde pour le camp. Ça dépasse les limites, la population c'est trop grande. Donc en septembre l'année passée, nous avons commencé à développer un autre site qui s'appelle Molongwe, dans le territoire de Fizi. Et là, le programme c'est de développer le projet avec le réfugié et la population hôte. Les activités rurales, etc., etc. Et s'ils voudraient aller là-bas, on est vraiment prêts à les aider à retourner ou aller là-bas.
Ils ont certainement peur d'être rapprochés plus de leur pays d'origine. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de leur trouver un endroit qui les écarterait des frontières de leur pays pour qu'ils se sentent suffisamment en sécurité?
Ça dépend de chaque personne. Je crois que ce n'est pas la plainte de tous ces réfugiés. Ils étaient là avant, Sud-Kivu, quelques-uns à Nord-Kivu, à Goma précisément, qui est loin de leur frontière. Donc je crois que ce n'est pas ça le gros plainte de ces réfugiés. Mais on est toujours en train de discuter et on est ouvert d'avoir les communications, essayer de trouver pour chaque famille, chaque individu, le bon compte.
Enfin, madame, à quoi est-ce qu'ils peuvent s'attendre de par votre visite ici à Lubumbashi?
Je vais revenir avec notre homologue, le CNR, pour discuter ensemble avec les réfugiés. Mais entre-temps, l'équipe ici va continuer les discussions avec eux pour trouver les meilleures solutions dans nos ressources limitées. Mais je voudrais vous remercier, MONUSCO et tous nos partenaires, surtout le gouvernement, de nous aider dans toutes nos démarches pour mener les solutions pour ces réfugiés.
Madame Anne Encontre, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur.
Au Castel-Oriental, à travers son unité pénitentiaire, la MONUSCO multiplie des séances de renforcement des capacités du personnel de la prison centrale de Mbujimayi. Objectif, aider le staff carcéral de cet établissement à assurer son bon fonctionnement et sa sécurisation. Chris Mkand.
Dimanche, le personnel de la prison centrale de Mbujimayi et les éléments commis à la sécurisation des installations et des détenus ont été entretenus sur l'organisation des visites et les activités médicales. Entre autres recommandations, que chaque visiteur soit bien inspecté avant d'accéder à l'intérieur de la prison. L'administration pénitentiaire devrait tenir à jour un registre qui reprend les détails concernant tous visiteurs, même les membres des églises qui, généralement, effectuent des visites et posent des actes de charité au bénéfice des pensionnaires de la prison centrale de Mbujimayi le dimanche, devraient se faire enregistrer et se soumettre au contrôle de routine avant de pénétrer dans la cour de la prison. Bien qu'aucun cas d'évasion n'ait été signalé depuis un temps dans cette maison carcérale, l'unité pénitentiaire de la MONUSCO encourage le personnel de l'X de sécurité PNC et FRDC à maintenir des patrouilles régulières tout autour de la prison. Un mot a également été souligné sur le contrôle des mouvements des détenus, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la prison. Le personnel de la prison, pour sa part, demande à ce que l'unité pénitentiaire de la MONUSCO facilite l'obtention des badges d'identification des visiteurs. Signalons qu'à ce jour, la prison centrale de Mbujimayi regorge des 949 pensionnaires, soit une surpopulation estimée à 630%. Chris Mukand, Mbujimayi, Radio Kapi.
Magazine des Nations Unies, de Sion aux Nations Unies.
Les dispositions sont-elles prises par rapport aux cadavres des personnes décédées de la maladie virus Ebola? Suivez cette question posée mercredi à la conférence des Nations Unies et bien évidemment la réponse du représentant de l'OMS en RDC.
Docteur, il y a notre correspondant sur place à Mangina, à Beni, qui nous informe qu'il y a des problèmes en ce qui concerne l'inhumation des cadavres dus à l'Ebola. Jusque-là, c'est la population qui s'en occupe. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises?
Effectivement, il y a des dispositions qui sont prises parce que la gestion des corps des gens qui sont décédés d'Ebola, c'est la véritable source de contamination. Et donc, par rapport à ça, il y a toute une équipe encadrée par le ministère de la Santé avec l'appui de la Croix-Rouge, de la Fédération, du CICR et de la Croix-Rouge congolaise. L'équipe a été formée pour ce travail. Il faut dire que au début de chaque épidémie, ça a toujours été un peu difficile. Il faut faire comprendre aux gens qu'il faut qu'ils évitent vraiment, quand il y a un corps, que de laver le corps, de toucher le corps. Parce que il est évident que quand quelqu'un décède, c'est un système un peu dynamique, mais les virus du corps ont tendance à se mettre sur la peau. Et donc les gens peuvent très facilement se contaminer. Et c'est pour ça que dans la sensibilisation des communicateurs, ils font passer ce message également dans les familles pour que quand il y a un décès, que les gens puissent attendre que l'équipe puisse venir les aider à faire un enterrement digne et sécurisé. Et ça, actuellement, sur le terrain, ça se fait déjà. D'ailleurs, il y a deux jours, il y avait eu un décès dans un village où les villageois ont envoyé chercher l'équipe qui était à Beni pour se déplacer à cet endroit-là pour pouvoir les aider à faire cet enterrement. Donc, je crois que ça commence à prendre corps.
Magazine des Nations Unies. Portrait d'usine.
Je m'appelle Georgine Koutankokori, je suis mariée et mère de 4 enfants. Dire 4 me fait toujours mal car autour de moi, il y a des enfants qui m'aiment bien et me prennent pour maman. Pour ma formation, je suis licenciée en pédagogie appliquée, option lettres et civilisations anglaises. Pour mon parcours professionnel, étant pédagogue, j'ai eu la chance de travailler dans mon domaine d'enseignement, dans des grands centres de langue de la RDC, dont KLC, Kinshasa Language Consultant et Cali, Congo American Language Institute. J'ai eu la chance de travailler avec mes profs et qui ont beaucoup contribué à mon développement de la carrière. Cette riche expérience m'a permis d'être consultante en formation à la MONUSCO depuis 2006. En tant que consultante, j'ai été sollicitée dans d'autres grands bureaux et c'est en 2016 que j'ai finalement accepté un contrat fixe terme comme officier en formation. Les tâches quotidiennes, je n'ai pas vraiment de journée typique. Comme mon titre l'indique, je ne suis pas là seulement à recevoir des ordres, mais surtout de penser comment améliorer et contribuer dans le travail de l'équipe. Donc, après l'analyse des besoins en formation des staff de la MONUSCO, je m'occupe du design, du développement, de la facilitation des différents cours. Je coordonne les activités de tous les professeurs de cours de langue dans tous les secteurs de la MONUSCO et aussi décide de quelles formations livrer à Kinshasa. Je reçois aussi les clients et les oriente pour ce qui concerne nos formations, notamment les cours internes, externes et obligatoires et aussi en ligne. Mon temps libre, premièrement, je programme mes activités ménagères. Je conçois des horaires qui sont implémentés par mes collègues à la maison en mon absence. Donc, c'est qu'on va manger pendant la semaine, quoi faire avec la famille, quel achat, qui visiter, etc. Deuxièmement, je cause beaucoup avec les enfants car je crois qu'ils ne peuvent profiter de moi au maximum que quand il n'y a pas de contraintes. J'en profite aussi pour les enseigner ce que je peux et discuter sur leurs différents livres que nous avons lus et chantons souvent ensemble. Je contemple la nature, les arbres, les animaux, la société. J'aime aussi écouter les gens. N'importe qui peut m'inspirer. Je suis très simple, positive, pratique, mais conservatrice et deux fois opposante, ce qui peut mettre mal à l'aise mes proches. Enfin, j'utilise mon temps pour lire les livres de mes auteurs préférés, dont Stephen Covey, Hill, Canfield et beaucoup d'autres qui sont devenus mes meilleurs amis. Pour la musique, j'aime la musique slow ou douce. Le sport, j'aime le foot et mon équipe préférée, c'est DSMP et le Real. La nourriture, je mange tout avec appétit. Parmi mes projets d'avenir, je rêve avoir du temps avec des petits-enfants, des jeunes filles et garçons pour leur transmettre des valeurs qui peuvent les aider à affronter la vie avec confiance. Ne pas toujours envier les autres, faire du bien, se faire accepter. Bien faire cela, c'est dans l'obligation de partager et de restituer ce qu'on a reçu des autres. J'ai constaté qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent sans éducation de base, sans amour, sans protection affective. Et pourtant, tout ça ne demande pas toujours beaucoup d'argent, mais de la responsabilité de la part de certaines personnes qui ne les font pas et qui malheureusement ne peuvent plus arrêter les conséquences qui en découlent. Ce sont des petites choses, mais qui gâchent notre vie. C'est vrai que je n'atteindrai pas beaucoup, mais s'il y a ne fût-ce qu'une personne qui peut en profiter, c'est mieux que zéro. Je suis confiante et je sais que c'est possible car je l'ai déjà expérimenté avec deux filles et plus de cinq garçons. J'en profite pour saluer les auditeurs de la radio CAPI et surtout j'aime beaucoup la radio par son professionnalisme. Merci.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio CAPI.
Quelques rendez-vous à noter dans vos calepins, Ribard, si vous êtes gaucher. Le 13 août, c'est la journée internationale des gauchers. Et puis, cette date importante, le 19 août, c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était la fin du magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, mise en onde par Sylvain Baouguéré. Honoré Missénien Kialala était au reportage, à la coordination et à la réalisation. Martha Seboujangwe l'a supervisé. À bientôt sur Radio Capi. Ciao.